Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Connaissance. Sachez que même si on est au loin et on voit moins, vous êtes dans nos pensées, dans nos prières. Et des fois, les politiciens disent ça, hein, il arrive une catastrophe, vous êtes dans nos pensées, dans nos prières. Puis, je dis souvent, est-ce que c'est vrai qu'ils prient? Mais nous, on prie et on prend des nouvelles là, quand on travaille avec Jean-Sébastien et toute l'équipe. Et on est content de vous revoir. Merci. On va commencer avec la première image. Je vais commencer par ouvrir mon... je commencerai à la première image, s'il vous plaît. Ça va s'en venir. On va commencer avec... Hey, celle-là. Dans les films de Walt Disney World, lorsque le personnage vedette est en danger, en péril, et que là, il est dans une situation précaire, et là, on retient un peu notre souffle, mais qu'est-ce qui va arriver? Quel va être le dénouement? Vu que c'est du Walt Disney, il va s'en sortir. Ça va toujours bien. On connaît la fin de l'histoire, même avant de la voir sous nos yeux. Ça va être un dénouement heureux, héroïque, une fin magistrale. Et ça, pour presque 100% des films de Walt Disney World. Sinon, ce serait pas du Walt Disney. Imaginez les petits-enfants de 3-4 ans qui écoutent ça, puis d'un coup, ils se mettent à pleurer parce que... Tout arrive de croche, là. Déjà qu'il y a Bambi la mère de Bambi meurt, c'est déjà assez triste. Hein? Ça, c'est le plus loin qu'on va. C'est la même chose pour Hollywood. Et en parlant d'Hollywood, on parle de l'industrie du cinéma, là. Et à moins que ce soit un drame ou des fois un film historique, une histoire vraie où il y a vraiment une fin un peu dramatique. La plupart du temps, c'est un scénario fait sur mesure, on peut facilement anticiper une fin heureuse. D'où l'expression qu'on utilise, hein, c'est arrangé avec le gars des vues. Dans tous ces beaux films, on peut aussi dire, on connaît la fin de l'histoire. Certaines histoires bibliques, bien réelles celles-là, hein, on ne parle pas de cinéma ou de choses fictives, dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, les histoires marquantes, elles finissent toujours bien. Est-ce qu'on a vraiment peur pour David quand il se présente avec sa fronde puis ses 5 pierres qui s'avancent devant Goliath? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on se dit, oh non, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va survivre? Non, on a confiance. On sait qu'il va gagner. On connaît la fin de l'histoire. On ne craint pas non plus pour Moïse et le peuple juif qui s'avance à la mer Rouge puis qui est coincé avec Pharaon et ses armées qui arrivent en arrière. Est-ce qu'on a vraiment peur? Moi, quand je lisais David ou Moïse, là, puis pour la première fois, même si je ne savais pas vraiment, Moïse, je le savais parce que j'avais vu les films, mais David, je connaissais pas ça à l'âge de 22 ans. J'avais confiance. On savait que ça allait bien se passer. Il y a comme un scénario où on connaît la fin de l'histoire. Ce matin, on va considérer l'histoire des disciples d'Emmaüs. Prendrai la prochaine, est-ce que comme ça? OK, excellent. Donc, on va considérer l'histoire des disciples d'Emmaüs. Il était deux. Il se dirigeait vers Emmaüs, qui est un village qui est à 11 kilomètres de Jérusalem. Et le moment est vraiment important. C'est le troisième jour après la crucifixion de Jésus. Et quand on lit, nous, le récit là, dans l'Évangile de Luc, on connaît évidemment l'histoire, on l'a lu plusieurs fois, c'est comme pour David, c'est comme pour Moïse. On connaît la fin de l'histoire et on sait que ça se termine bien. Ce qu'on a besoin de vraiment réaliser, c'est qu'au moment où ils le vivaient, eux, ils ne connaissaient pas la fin de l'histoire, ils ne connaissaient pas le dénouement de ce qui allait arriver. Ils doutaient, ils luttaient, ils étaient tourmentés, ils étaient troublés en dedans d'eux-mêmes, tout comme nous, on peut l'être dans notre marche avec Jésus. Parce que nous non plus, on ne connaît pas la fin de l'histoire, on ne sait pas ce qui va arriver. Ah, excellent. On va commencer par lire les versets, on va aller dans la parole, j'ai juste des petits bouts là, mais si vous n'avez pas votre Bible, vous pouvez juste écouter ou encore lire avec moi. On va lire Évangile de Luc, chapitre 24, les versets, on va commencer au verset 13 à 32. J'aime tellement ce récit-là, que je l'ai lu des centaines de fois certainement dans ma vie, et à chaque fois que je le lis, j'ai des petits frissons. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passés. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étaient rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? » Lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures. En faisant un petit résumé, verset 13, on voit que c'est le troisième jour, le premier jour de la semaine. Les femmes sont allées au tombeau, mais les apôtres ne les ont pas crues. Et au verset 17, on voit que les deux disciples d'Emmaüs avaient l'air attristés. Ils marchaient en chemin, Jésus est venu les rejoindre. L'air attristé. Et ça, c'était pas une déception que le Canadien a perdu toute l'année puis qu'il fera pas les séries, là. C'est pas le genre de déception comme ça. Ils avaient mis toute leur confiance en Jésus. Jésus était là dans son ministère public depuis 3 ans et les disciples, progressivement, un après l'autre, ont adhéré, ont mis leur confiance en Jésus. Ils en ont parlé à leurs proches. Ils ont dit, viens l'écouter, viens le voir. Moi, je sais que c'est le Messie, il est le sauveur du monde, puis j'ai mis ma confiance en lui. Et ils ont annoncé à leurs proches que Jésus, qui allait être crucifié, mais qui allait ressusciter le troisième jour. Mais là, la déception, c'est que le troisième jour, est arrivé, puis il ne s'est rien produit. Verset 21, « Nous espérions, la journée est finie, le soleil baisse, ils vont aller souper dans une auberge, puis peut-être passer la nuit là. Nous espérions que ce serait lui, mais déjà le troisième jour, il ne s'est rien produit. » Sentiment de déception, d'abandon. Verset 22, les femmes sont allées au tombeau, puis ils auraient vu des anges, ils ont vu un ange. Déjà qu'on a mis notre confiance sur une grande chose, que Jésus y allait ressusciter, puis c'est pas arrivé, fait que, regarde, là, de croire qu'il y a eu un ange, là, on croira pas à une autre chose incertaine. C'est assez dur d'avaler que Jésus il n'est pas ressuscité, on n'a pas eu de nouvelles. Verset 24, les femmes, ils ont parlé, ils ont dit qu'il y avait des anges. Mais lui, Jésus, il est où? Mais lui, ils ne l'ont point vu. Et là, il y a ce combat-là c'était trop beau pour être vrai. On croyait en Jésus, on croyait qu'il était le Messie, mais est-ce qu'on se serait trompé. Là, on ne sait plus, on doute, on lutte et on est vraiment troublé. Leur cœur était mis à rude épreuve. Leur foi était en train de défaillir un peu. Là, c'était chambranlant. Et quand Jésus leur parle au verset 25, il dit, « Homme dont le cœur est lent à croire. » C'est avec le cœur, c'est avec notre âme, c'est avec notre pensée, c'est avec tout notre être qu'on croit. Et là, Jésus là, dit, « Vous êtes en train de douter. Vous doutez avec votre cœur. » Mais il va prendre soin de leur cœur. Imaginez quel moment grandiose. Tu parles avec un homme que tu connais pas l'identité, mais il te donne des réponses, il t'explique les Écritures, puis à un moment donné, il veut. Toi, t'arrêtes, puis il veut s'en aller. Qu'est-ce que tu fais avec un gars de même? Hey, reste avec nous. Non, viens, on veut encore parler avec toi. Non, ça vaut pas la peine. Trouve une bonne raison pour pas qu'il continue sa route. Le soleil baisse, puis tu verras plus rien. Viens avec nous. Jésus qui accepte, qui continue à parler et tout à coup, au moment de rompre le pain, quel cadeau il fait à ses deux disciples. Non seulement de se révéler, qu'ils le reconnaissent, mais il disparaît. Qu'est-ce que ça voulait dire que Jésus disparaisse devant leurs yeux? Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que c'est lui. On peut plus douter. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Puis Jésus, il nous a fait plein de miracles extraordinaires. Puis là, on sait pas pourquoi, on l'a pas reconnu sur le moment, mais il a révélé son identité, puis il l'a confirmé d'une façon extraordinaire en disparaissant. Et là, ils disent, quelle belle expression. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Il dit, on n'a pas senti, c'était comme un feu en dedans de nous pendant qu'il nous parlait. Puis au moment où il a disparu, on a vécu une expérience incroyable. On a compris que tout ce temps-là, quand il nous parlait de Jésus, c'était lui-même qui nous le disait. Wow! Leur foi qui avait été mise à rude épreuve, qui ne connaissait pas la fin de l'histoire, qui ne savait pas ce qui allait arriver, là, le film de Walt Disney, là, le film d'Hollywood, wow, il finit, il y a une conclusion où Dieu manifeste sa gloire. On réalise-tu à quel point Jésus a fait du bien à leur cœur pour les fortifier, pour qu'ils croient. Et dans nos vies, l'attente du troisième jour, qui est, là, c'était l'attente de la résurrection de Jésus, ce troisième jour, pour nous, c'est le moment où la réponse est donnée. C'est le moment gracieux, béni, glorieux, où on a la réponse et on a l'intervention de Jésus et où nos cœurs sont soulagés. Et pour faire un parallèle avec ce que nous on vit entre la mort de Jésus et entre la résurrection, pour nous, notre troisième jour, parfois c'est pas trois jours, hein, ça peut être des semaines, ça peut être des mois d'attente, ça peut être des années où on est en train d'attendre, d'espérer, de croire à la promesse, croire que c'est vraiment Jésus qui est nous a donné cette conviction à laquelle on continue à s'accrocher. Le troisième jour peut être long pour nous. Entre le moment où Jésus semblait absent, où il ne répond pas, il n'intervient pas, et où il apparaît, il peut se passer bien du temps. Pour eux, c'était trois jours, mais notre troisième jour peut être plus long. Comment on vit ça? Est-ce que vous êtes capable de dire à Jésus, dans ma vie personnelle, ça ne marche pas comme ça? On dirait qu'il n'y a pas de gars des vues pour moi. Je suis celui à qui Dieu ne répond pas. Jésus ne fait pas pour moi le miracle tant espéré. J'espère, mais il n'intervient pas. Et dans ce temps-là, si on met un thermomètre ou on met un fil pour ressentir ce qu'on ressent, on peut se sentir délaissé et abandonné par Jésus. Mais comme bon chrétien, on ne veut jamais dire à voix haute, Jésus, tu m'abandonnes. Tu m'as abandonné, tu m'as laissé tomber. Tu n'as pas été là pour moi. On sait bibliquement que, si on le ressent, que ce n'est pas la vérité. On sait bibliquement qu'on peut croire et s'appuyer sur le fait que Jésus est avec nous, qu'il ne nous délaissera jamais. Que Jésus se soucie de nous, qu'on est une brebis spéciale et qu'il a les regards sur nous et qu'il veille sur nous de sa bonne main. Notre Dieu, l'Éternel, est près de ceux qui l'invoquent. On sait aussi que Jésus ne fait pas de favoritisme. Dans Jacques 1,5, on a cette expression, je suis en train d'oublier la prochaine. Excellent. Dans Jacques 1,5, on a ce verset qui dit que Dieu donne à tous simplement et sans reproche. Ici, c'est pour la sagesse là, qu'on peut demander à Dieu, mais c'est la façon que Dieu agit. Il donne à tous, puis simplement, donc on ne peut pas penser que Dieu donne à un, puis il ne donne pas à l'autre. Dans 1 Pierre 1,17, il juge l'œuvre de ses enfants sans favoritisme. Notre Dieu est juste. Il se soucie de nous. Mais est-ce que Jésus, parce qu'il est juste, il va agir de façon identique, pareil, en même temps, avec le même scénario dans chacune de nos vies? Non, il va avoir une variété, il va avoir des différences. Si on revient à notre passage, à Cléopas et son compagnon. Quand il était en proie au doute et au tourment, Jésus vient se présenter à eux de façon grandiose. Marche avec eux, il parle, il enseigne, il s'assoit, il mange, révèle son identité, puis en plus, c'est la cerise sur le sundae, sur le gâteau, il disparaît, il fait un miracle. Mais Jésus va en rajouter pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir vu Jésus? Ils ont passé la nuit là, puis leur cœur débordait tellement que ça s'est transmis dans leurs jambes. Qu'est-ce qu'ils ont fait en pleine noirceur? Il n'y avait pas des lampadaires entre Emmaüs, puis ils se sont mis à courir. Je ne sais pas s'il y avait une soutane, là, mais ils devaient être en sandales. Donc là, ils ont couru un 11 km, je ne sais pas en combien de temps ils l'ont fait. Ils ont dû se cogner les orteils une couple de fois. C'est Pierre, en voulant aller vite, puis tu ne vois pas trop, puis aïe, mais on continue. Et là, ils se rendent à Jérusalem. Ils vont voir les disciples. Puis une fois arrivés, ils crient la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité! Et au même instant, qu'est-ce qui se passe? Les chanceux, les bénis? Jésus apparaît de nouveau parmi eux. On va lire les versets 33 à 43. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même, Jésus, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. La joie, l'étonnement, l'euphorie, c'était extraordinaire. C'était pour les disciples qu'ils voyaient, même pour la première fois, ils ne voulaient pas croire, c'était trop beau pour être vrai, c'était trop une émotion forte. Mais ici, le point que je veux mettre, c'est de voir combien les deux disciples d'Emmaüs ont été favorisés, une grâce de Dieu. C'était pas juste pour les autres. Et surtout, c'était comme on donne tout à un, puis on donne pas à l'autre. C'est qui celui qui était oublié dans tout ça? Thomas! Thomas, lui, il est pas là! Pauvre Thomas! Lui, Thomas, il a dû attendre 3 jours, hein, puis le 3e jour, c'était tard que Jésus s'est révélé aux disciples d'Emmaüs, puis après ça, à tous ceux qui étaient réunis, les 11, mais pauvre Thomas, il est pas là! Il va devoir attendre encore plus longtemps. En Jean, on va lire en Jean 20, verset 24. Jean 20, verset 24 à 28. C'est un passage qu'on connaît bien, là. C'est un classique où les paroles là, qu'on retient toujours de Thomas. Hein. Thomas n'était pas là lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après. Combien de jours après? 8. Donc lui, déjà c'est long d'attendre 3 jours, mais lui, il a fallu qu'il attende combien de jours supplémentaires? 8 jours! 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-les dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Quelle belle leçon à tirer. Disciples d'Emmaüs, 2 apparitions miraculeuses, 2 fois en presque 2 heures, là, on ne sait pas combien ils ont pris de temps pour courir leurs 11 kilomètres. Thomas, 0 fois après le 3e jour, puis 8 jours supplémentaires d'attente. Et dans nos vies, en appliquant ces choses-là, on peut avoir l'impression que Jésus répond de façon extraordinaire régulièrement à certains chrétiens et que à nous, bien qu'on est sincère, qu'on est engagé, on a l'impression que Jésus ne répond pas. J'ai entendu dans un message l'exemple d'un pasteur aux États-Unis qui avait un projet d'adoption. Il priait pour la jeune fille dans un pays extrêmement pauvre, en guerre. Mais le responsable, à la toute dernière minute du gouvernement, a dit non, il n'est pas question que ce pasteur-là et que ces chrétiens-là aient les enfants de notre pays. Ils vont rester ici. Fidèlement, pendant des mois, la famille du pasteur a continué de prier avec ferveur. Un des enfants de ce chef du gouvernement qui avait bloqué l'adoption, un de ses enfants est tombé malade au point d'être à l'agonie, d'être sur le point de mourir. Et cet homme a accouru dans un hôpital puis en implorant de dire « Faites tout ce qu'il faut pour guérir mon enfant ». L'hôpital n'a pas fait grand-chose. Ils l'ont mis dans un lit, puis ils ont commencé à regarder, puis l'enfant est guéri par lui-même. Cet homme puissant a dit, « Demandez-moi n'importe quoi, et je vous l'accorde. » Sur le coup, l'hôpital, les dirigeants ont dit, « Non, finalement, on n'a pas fait grand-chose. Non, ben peut-être une chose, ce serait vraiment apprécié si vous accordiez l'adoption de cet enfant qui est dans notre hôpital et ça a été fait. Quelle belle intervention d'un Dieu qui est souverain, puissant qui agit, qui intervient dans nos vies et qui répond à nos prières. C'est un miracle tellement beau et tellement grand qu'on peut que s'en réjouir. Mais en même temps, avec notre expérience, on peut se demander pourquoi est-ce que ça ne se passe pas comme ça avec moi? Et quand il y a des questions comme ça, on a besoin de répondre. La nature a horreur du vide. Et une des premières déductions qui nous vient rapidement, c'est quoi? Ça doit être moi le problème. Je n'ai pas assez de foi. Je n'ai pas gagné la faveur de Dieu par mon intensité dans ma consécration. Ou encore, peut-être, j'en vaux pas la peine. Dieu, il ne peut pas s'occuper et être là autant pour tout le monde. Donc, peut-être qu'il pense qu'il est mieux d'investir dans puis d'agir dans la vie de d'autres. Puis moi, tu sais. On en vient à croire aussi que ça ne vaut plus la peine d'insister. Hein. Il y a des choses que des gens ont beau insister 10 fois, 100 fois, ils ne l'auront jamais. Donc, on ne veut pas à ce moment-là qu'on a compris qu'on ne l'aura pas se couvrir de ridicule en insistant encore davantage. Aussi bien être raisonnable, arrêter d'y croire et arrêter de souffrir par la déception. Bien des fois, dans nos marches, dans notre relation avec Dieu, il faut être patient. Comme Thomas qui a vécu le tourment de la foi. Oui, vous allez dire, ça a duré juste 8 jours de plus. Mais comment il se sentait? Comment il se sentait quand les autres apôtres, disciples sont venus vers lui et ont dit, « Hey, nous! » Le Seigneur nous a apparu. Pourquoi Jésus me fait ça à moi? Pourquoi Jésus n'a pas permis que je sois là et que je puisse me réjouir? Parfois, il faut attendre le 3e jour pour la réponse. Et parfois, il faut attendre plus, une semaine de plus. Il faut savoir attendre le temps de Dieu, mais c'est vraiment pas facile. Et il y a de la place dans la prière pour exprimer nos émotions à Dieu. Dire à Dieu qu'on se sent abandonné. Dire à Dieu que notre cœur est découragé, que notre cœur est déçu. On espérait que ce serait lui, mais lui, on ne l'a pas vu. Jésus, j'espérais que tu puisses intervenir, mais je ne le vois pas. Ce n'est pas arrivé. Par mon expérience personnelle, puis en regardant l'ensemble du Nouveau Testament, je pense que se permettre en étant honnête, de prendre conscience de notre blessure, de l'abandon, de la déception, du combat avec la souffrance qui est là, se permettre d'en prendre conscience et de l'exprimer à notre Dieu dans la prière, ça va nous permettre de s'en sortir. Ça va nous permettre d'aller de l'avant, puis de passer du doute à la foi. Je crois que d'avoir l'attitude qu'on veut d'un bon chrétien, qui est respectueux, qui est soumis, qui accepte comment Dieu fait les choses, puis il va avoir à l'intérieur un cœur divisé, un cœur qui abandonne, et il n'y aura pas ce cœur intense qui veut lutter puis qui veut continuer à marcher avec Jésus. On va juste abandonner, dire, ah, c'est correct comme ça, puis je ne m'attendais pas à grand-chose. On a besoin d'exprimer puis de ressentir cette douleur. Thomas l'a vécu, hein? Thomas a vécu toutes sortes d'émotions, et quand il s'est fait dire que Jésus était venu puis que lui, il était pas là. Moi, je ressens un peu de colère, d'indignation, là. Il ne devait pas parler doucement, de dire, « Ah oui, ah bien moi, si je ne mets pas mon doigt, puis si je ne mets pas mon poing dans son côté, je ne croirais pas, mais si je le fais, ça va être correct. » Non, hein? C'était vraiment... Il devait être troublé. Il devait se demander, « Mais pourquoi Jésus m'a fait ça? » On lui dit que Jésus est passé et qu'il l'a manqué. On est en train de jouer avec lui, là. On est en train de le troubler, de le tourmenter. Et là, il explose, il exprime ce qu'il y a dans son cœur. Et Jésus, ce qui est intéressant, c'est qu'il a répondu à son besoin, il a répondu à sa prière, il a répondu personnellement. Moi, je crois, sans reproche, hein, on prend souvent le verset « Tu as cru parce que tu as vu, puis maintenant, heureux celui qui croit sans avoir vu. » Moi, je le vois pas tellement comme une condamnation de dire « Thomas, toi, tu as cru, mais tu as cru malgré, tu n'as pas cru de la bonne façon. » Je pense que Jésus était plus en train d'annoncer que toi, maintenant, tu as vu, comme les disciples ont vu, comme les apôtres, comme les disciples d'Emmaüs. Eux, ils ont cru parce qu'ils ont vu, puis ils avaient besoin d'être fortifiés parce qu'ils allaient donner leur vie puis mourir pour Jésus dans quelque temps. Jésus est en train de dire, dans l'histoire de l'humanité, il va y en avoir des millions qui vont croire sans avoir vu Jésus, sans avoir mis leurs mains. Mais on va avoir le témoignage, la parole, la conviction du Saint-Esprit pour croire. C'est comme ça pour la majorité d'entre nous. La foi est éprouvante. Croire en Jésus puis marcher par la foi, c'est pas simple, c'est pas facile. Jésus a dit, vous dont le cœur est lent à croire, c'est dur pour le cœur de croire. Exercer la foi, ça nous vire à l'envers, ça nous trouble. Ça nous fait vivre et ressentir des choses qu'on ne voudrait pas. On dirait que dans la communauté évangélique, dans les églises, il y a les Cléopâtres de ce monde, puis il y a les autres. Les Cléopâtres de ce monde, c'est ceux à qui Jésus répond rapidement, avec gloire. Et si vous êtes un de ceux-là, puis je me considère pas être dans ceux-là, hey, rendez gloire à Dieu, à Jésus. C'est pas parce que vous êtes plus spirituel ou meilleur que les autres, c'est une grâce. C'est le moyen que Dieu prend pour manifester sa gloire. Rendez gloire à Dieu et faites preuve d'humilité. C'est pas parce que vous êtes plus spirituel. Faites preuve aussi de compassion envers vos frères et sœurs qui souffrent dans l'attente d'une réponse. C'est tellement triste d'entendre des remarques comme « Ah, tu vis ça? Moi, je l'ai demandé à Dieu, à Jésus, puis en croyant vraiment, puis il m'a répondu tout de suite. » Vous êtes là comme interlocuteur, comme auditeur, qu'est-ce qui vient dans votre cœur? Hey, ça met un poids de culpabilité. Jésus ne répond pas à moi, je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être un problème avec moi. J'aimerais qu'on regarde deux exemples qui illustrent cette situation qu'on voit dans... Excellent. Premier exemple, c'est dans Acte 12. Dans Acte 12, il y a... Je vais lire les versets 7 à 10. Ouais, quand je pèse deux fois. Ah, OK. Ah. Merci, Jean-Sébastien. Des fois, ça prend du temps avant que Dieu réponde. Là, vous avez... Mais il ne faut jamais lâcher. Dans Acte 12, je vais vous lire les versets 7 à 10. C'est Pierre qui est en prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture, tes sandales. » Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel en s'imaginant avoir une vision. C'est-tu vrai ou pas vrai? Lorsqu'ils furent passés la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Wow! Est-ce que Dieu répond? Est-ce que Jésus délivre? Une libération miraculeuse, l'intervention d'un ange, les portes de la prison qui s'ouvrent, tout le monde le laisse passer. Qu'est-ce que vous pensez que Pierre vivait quand il était en prison? Emprisonné. Il ne sait pas ce qui va arriver, mais Jésus, peu de temps avant son départ, avait émis une déclaration sur Pierre. Et quelle était cette déclaration? Hey, on va t'attacher les mains, puis on va te mener où tu ne veux pas aller. Puis Jean a pris la peine, comme évangéliste, d'expliquer ce qu'il voulait dire. C'était où la place où il ne voulait pas aller? À la mort, c'est écrit dans le texte. Jean a pris la peine de le spécifier. Pierre est en prison. Il se dit, est-ce que ce serait maintenant? Est-ce que ce serait la prophétie? Est-ce que ce serait fini pour moi? Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que faisait l'Église? L'Église, au verset 5, il dit qu'elle ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Extraordinaire, un Dieu qui est grand, qui est béni. Mais dans le contexte, juste un peu avant, versets 2 et 3, qu'est-ce qui est arrivé? Verset 2, « Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. » Voyant que cela était agréable aux Juifs, il en a fait arrêter un autre. Pierre, c'était pendant les jours des pains sans levain. C'était qui ce Jacques-là? Il y a plusieurs Jacques dans la Bible. Ce Jacques-là, c'était le Pierre, Jean, Jacques. C'était le frère de l'apôtre Jean. Est-ce que Jésus aimait d'une façon tout à fait spéciale Jacques? Bien oui, quand il y avait les moments uniques d'aller sur le mont de la Transfiguration, d'aller dans le jardin de Gethsémané, puis qu'il avait besoin d'en avoir trois pour le soutenir, d'être là, des confidents, des apôtres sur lesquels il pouvait s'appuyer. Il prenait Jacques. Ce Jacques, juste avant Pierre, est allé en prison. Qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Il est mort. Pourquoi? On ne sait pas. Jésus aimait Pierre. Jésus aimait tout autant Jacques. Est-ce que Jésus a été là pour Jacques? Oui, d'une manière différente. Et ça nous aide à attendre le troisième jour. Ça nous aide à attendre, puis à patienter, puis à comprendre la grandeur de notre Dieu, comment il nous aime, puis comment nos vies, on en perd un peu le contrôle des fois, puis on les remet nos vies dans les mains du Seigneur. Deuxième exemple, la même chose dans Daniel, je vais juste vous lire, Daniel 3, verset 17-18, les trois amis de Daniel menacés d'être jetés dans la fournaise ardente. Et voici ce qu'ils ont dit. « Voici notre Dieu que nous servons, va nous délivrer. » Exactement. Notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et on a confiance, il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, si dans sa sagesse, sa souveraineté, il décide qu'il ne nous délivrera pas et qu'on va brûler dans la fournaise, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Dieu peut le faire ou non, et son amour envers nous ne change pas. C'est biblique, et ça fait plein de bon sens, c'est réaliste de constater que parfois, Jésus répond comme on le souhaite, selon le souhait de notre cœur, et parfois, les choses se passent d'une autre façon. Le scénario de la vie n'est pas écrit par Walt Disney. Il est écrit par Jésus-Christ qui est souverain sur toute chose. Nous, on ne connaît pas la fin de l'histoire, mais notre Dieu, lui, la connaît. Ça devrait marcher. Ah! Ouais. Lui, il connaît la fin de l'histoire et il est digne de confiance. Ça nous appelle à une grande honnêteté, une grande transparence et à vouloir faire un travail de cœur et à être intense, à être comme Thomas. Quand Thomas a su que Jésus était venu et qu'il n'était pas là, il n'a pas juste dit « Ah, c'est correct, c'est pas grave. » Il a réagi. Et comme ça, je pense, dans nos vies, on est appelé à avoir un combat du cœur et à réagir. Qu'est-ce qu'on vit? En tant que couple, pour ceux qui sont mariés, qu'est-ce que vous vivez? On voit tellement de problèmes de couple. Savez-vous quoi? La plupart des couples vivent des sérieux problèmes de couple et c'est tout à fait normal. Est-ce qu'on veut exercer la foi? Est-ce qu'on veut dire à Dieu, Seigneur, c'est pas normal qu'avec deux personnes qui t'aiment et qui veulent te suivre, qu'on n'ait pas une meilleure relation? Je me souviendrai toujours de la femme d'un pasteur qui, après 15 ans de mariage, dit « Hey, je me suis pas marié pour ça. C'est pas normal que ma relation de couple se soit pas mieux que ça. J'anticipais mieux que ça. Puis Jésus, je suis certain que tu veux mieux que ça. » Et là, elle a amené sa déception, elle a fait un combat dans son cœur pour que Dieu réponde. Et il y a eu une réponse. Qu'est-ce qu'on vit? Comment on survit, comment on réagit aux déceptions de cette relation si importante? Nos enfants, on fait de notre mieux et on s'engage et on voit ces petits êtres qui dépendent de nous, puis on veut le meilleur, on veut le salut, on veut qu'ils connaissent Jésus puis qu'ils marchent avec lui. Et parfois, tout semble bien aller, on espère le meilleur, puis tout s'effondre. Hein? Et le troisième jour où la résurrection revient, où ils reviennent à Jésus, parfois, c'est long. Et les années passent et on dit, il y a eu 3 jours, puis Thomas, il y a eu 8 jours de plus, mais là, dans mon cas, ça s'étire. Là. Jésus, qu'est-ce que tu fais? Peut-être qu'après vous avoir donné corps et âme pour l'œuvre de Dieu, pour votre église locale, vous vivez une grande déception, un vide qu'on ne comprend pas. On dit, Seigneur, on avait confiance que tu allais bénir, que tu étais avec nous, que ta bonne main allait être sur l'œuvre de nos mains, puis qu'on allait voir ta gloire. Puis là, on continue à espérer, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Et peu importe votre situation, ce que vous vivez dans vos combats, peut-être que vous n'aimez pas le dénouement de votre histoire. Peut-être que vous auriez aimé un autre scénario. Les circonstances de la vie ne sont pas toujours selon nos aspirations. On attendait ce qu'il y a de plus beau puis de plus grand de la part du Seigneur, mais ça se réalise pas. Et on peut vivre toutes sortes d'émotions. découragement, déception, tristesse. On peut ressentir l'échec, le rejet, la colère envers Dieu et notre cœur peut décrocher. Jésus voit notre tristesse. Jésus voit notre déception. Ça me rappelle les paroles d'un chant de Richard Toupin qui disait « Quand on ne sait pas dire ce qui nous a fait mal, on se condamne au pire à le garder pour soi. » Si on n'est pas capable d'amener notre cœur à Jésus puis lui dire comment ça marche pas puis de continuer à venir puis de combattre avec lui, on risque de manquer bien des bénédictions de la part de Dieu. On a besoin d'ouvrir notre cœur à Jésus, de lui dire « Jésus, mon cœur souffre. C'est comme si tu m'as laissé tomber. Je me sens abandonné. Je suis blessé. Je sens que j'ai de la misère encore à te faire confiance, même si je veux, mais ça fait trop mal. » On est les héros de la foi. Hein? On est dans le stade, puis on livre notre propre combat. Des héros de la foi qui combattent, qui persévèrent, qui prient et qui veulent garder confiance en Jésus, qui va manifester sa puissance, la puissance de la résurrection dans notre vie le troisième jour. Troisième jour, des fois, il est long. Est-ce qu'on veut se permettre de vivre notre déception, l'amener à Jésus, pour ensuite dire « Jésus, je veux encore te faire confiance. Jésus, je veux encore exercer la foi. Je veux croire en toi. Viens répondre. Tu as répondu à Thomas, tu as répondu d'une façon personnelle, merveilleuse. » On a besoin de dire à Jésus, « Jésus, j'attends ta réponse. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu qui agit dans ma vie, que tu veux te servir de moi. J'attends le troisième jour. J'attends que tu me rencontres sur le chemin d'Emmaüs. » On a besoin de dire aussi à Jésus, « Je suis prêt à attendre une semaine de plus, si nécessaire. Je veux pouvoir mettre mon doigt dans la paume de ta main. Je veux te rencontrer puis que tu répondes aux besoins de mon cœur. » On a besoin de dire à Jésus aussi qu'on accepte de vivre la déception, de vivre l'attente, de vivre ces choses qu'on n'aurait tellement pas voulu vivre. On va aller dans la prière. J'aimerais vous donner quelques instants de réflexion pour amener ces choses-là à Jésus. Demandez au Saint-Esprit qui fasse la lumière sur votre cœur. Comment va votre cœur? Est-ce que votre cœur se sent abandonné? Est-ce que votre cœur est déçu? Est-ce que votre cœur est réticent à vouloir vous jeter encore dans les bras de Jésus en lui faisant totalement confiance? Est-ce que votre cœur est rempli d'une amertume cachée envers Dieu ou on lui en veut de nous avoir fait vivre ces choses éprouvantes? Je vous invite aussi à dire à Jésus que la souffrance, la déception les passer par-dessus, que vous voulez la guérison de Jésus. Pour faire confiance à notre Sauveur, à nous. Dites-lui dans votre cœur, oui, Jésus, je veux croire encore en toi. Oui, je veux te faire confiance. Oui, je veux attendre le troisième jour. Oui, je veux attendre une semaine de plus encore. Je crois en toi, Jésus. Oui, Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ta présence. Tu es tellement grand, ton plan est tellement grand que tu nous dépasses. C'est trop grand pour nous. On est impatient, on ne comprend pas. On est découragé. On pense que tu nous as abandonnés. On ne sait pas ce qui est en train d'arriver dans nos vies. Seigneur Jésus, viens au secours de notre cœur défaillant. Manifeste-toi, réponds, Jésus. On a confiance que tu vas répondre. Seigneur Jésus, on veut t'offrir nos vies encore pour que tu les utilises. Et que tu fasses avec nous ce qui va contribuer à ta gloire, à faire connaître ton nom, Jésus. Je te prie pour ta gloire, pour ton nom, Jésus. Amen.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.